Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous présente ce soir notre invité, M. Martin Stephens. Vous êtes agrégé de philosophie, vous enseignez en classe préparatoire à Strasbourg, vous êtes un spécialiste de Simone Weil, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Petit traité de la joie, Consentir à la vie en bleu, aimer en vérité. Ce qui caractérise votre approche, c'est votre manière de rendre la philosophie concrète et proche de l'expérience humaine. Vous réfléchissez sur la joie, l'amour, la souffrance et le sens de l'existence à partir du quotidien. Le couple, la paternité, les fragilités comme les émerveillements qui traversent nos vies. Vous êtes un chroniqueur régulier de La Croix, La Vie, vous êtes un conférencier prisé, donc encore merci de votre présence ici. Et vous nous invitez souvent à ce même geste, descendre en nous-mêmes pour consentir à ce qui est et découvrir parfois au cœur de l'épreuve une joie plus profonde que le simple bonheur. Alors ce soir, vous allez nous introduire à la pensée de Simone Weil et René Girard. Je vous en remercie et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Un grand merci de votre accueil ici en terre franciscaine, d'autant que cette conférence a peut-être un petit tour franciscain dans la manière dont elle s'est organisée. Invitée par Marguerite Despatures à passer quelques jours chez elle, elle m'a dit « mais tu nous feras le plaisir d'un temps de parole ». Alors ça s'est organisé comme ça. Elle m'avait dit qu'en ce moment, la question de la vérité l'intéressait. Je lui avais dit que j'avais dû travailler sur la violence de la vérité chez René Girard et Simone Weil. Puis après, plus trop de nouvelles, je manque le mail de Jérôme et c'est devenu une conférence, cette évocation. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer. D'ailleurs, un topo que j'ai remanié pour vous, mais que je devais donner à l'origine. Ceux qui sont lecteurs de la vie liront cette aventure-là, que je devais donner à un séminaire. Un séminaire sur, justement, qui rapproche actuellement, ou sur tout le long de cette année, qui rapproche les pensées de René Girard et de Simone Weil, un séminaire à Paris, et des circonstances familiales m'ont condamné à être auprès de mon prochain plutôt que à montrer mes muscles théoriques dans un séminaire à Paris. Voilà. Mais il se trouve qu'il m'est donné vraiment la chance de pouvoir vous parler et vous partager. Alors ça fait un sacré gros programme, mais l'idée c'est qu'on échange après. Peut-être de temps en temps ça sera assez exigeant, assez challengeant, mais voilà, c'est la philosophie. Moi je dis à mes étudiants, quand vous lisez un roman, si à un moment donné vous ne comprenez plus rien, il vaut mieux revenir en arrière parce que sinon il va y avoir des histoires bizarres si vous ne savez pas quel personnage fait quoi. Alors qu'en philosophie, il y a cette idée que, et c'est important d'ailleurs sur cette idée de vérité, il y a cette idée en philosophie que finalement, l'idée étrange, c'est Bergson qui disait ça, l'idée parfois étrange devient celle à partir de laquelle le monde s'élucide. Donc ne pas comprendre, ça n'est pas d'abord un problème, ça n'est pas d'abord quelque chose qui doit nous inquiéter. Tout à l'heure, j'étais interrogé, et je vais commencer par cette phrase, j'étais interrogé sur les rapports de la philosophie à la littérature, et je n'ai pas cité ce très beau passage d'une nouvelle de Marina Tsvetaeva qui s'appelle « Ma mère et la musique ». Et je vous lis en introduction ce que dit Marina Tsvetaeva. Elle dit ceci: « Si les mères disaient un peu plus souvent à leurs enfants des choses incompréhensibles, non seulement ces enfants comprendraient plus de choses en grandissant, mais ils agiraient aussi avec plus d'assurance. Il ne faut pas expliquer à l'enfant, mais l'enchanter d'abord. Plus la mélodie de cet enchantement se fait profonde et pénètre dans notre conscience, plus elle portera son fruit dans l'enfant. » Et puis elle donne un exemple: « Notre Père qui êtes aux cieux ». Et en effet, on ne comprend pas. Bon. Voilà, donc autour de ce titre, La violence de la vérité, je vous propose de rencontrer deux penseurs de notre temps. Ce sont des penseurs de notre temps au sens où ils appartiennent à notre temps. Ce sont des philosophes du XXe siècle qui sont de la même génération, mais que leur longévité respective associe à deux époques, à deux périodes différentes du XXe siècle. Alors Simone Weil, 1919 1943, et René Girard, 1923. Donc vraiment, ils sont contemporains. Mais lui est mort en 2015. Et ça change tout, évidemment, dans la manière dont vous déployez votre vie intellectuelle, etc. Mais c'est aussi des penseurs de notre temps, au sens où je crois qu'ils nous permettent de saisir de notre époque quels sont les enjeux les plus profonds. Alors, ces deux penseurs qui ont une actualité très forte en ce moment, Simone Veil, depuis le centenaire de sa naissance en 1909, mais depuis 2009, depuis le centenaire donc de sa naissance, il y a quelque chose qui se passe autour d'elle. Voilà, elle est lue, elle est appréciée, elle est méditée. Elle était à un moment donné un peu à la mode, et puis années 90, début des années 2000, plus grand chose, et elle est revenue largement au goût du jour. René Girard, lui, il est tellement à la mode que c'en est même parfois un peu inquiétant. Il est à l'origine de la conversion au catholicisme de G.D. Vance, vous savez, le deuxième homme le plus puissant du monde, et par l'entremise de Peter Thiel, qui est un grand milliardaire américain, grand girardien aussi, en tout cas fervent admirateur de René Girard, que Peter Thiel a rencontré, et dont il a suivi les cours, et qui est aussi, qui met ses milliards dans le transhumanisme, dans cette transformation de l'être humain via les progrès technologiques. Donc, aux États-Unis, René Girard, c'est ça, mais c'est aussi, et je vous le signale parce que c'est important, par exemple, c'est aussi la clé de lecture, si vous aimez bien le cinéma, de l'œuvre, par exemple, de Darren Aronofsky, celui qui a fait The Wrestler, Pi, Requiem for a Dream ou Black Swan. Bon, Darren Aronofsky, si vous n'avez pas le logiciel René Girard, vous ne comprenez pas, ou alors Mel Gibson. Mel Gibson, c'est un girardien aussi, un grand lecteur de René Girard. Évidemment, sa passion que Girard avait défendue en France en disant que c'était un bon film. La passion de Mel Gibson est très influencée par la pensée de Girard, mais aussi un film qui s'appelle Apocalypto. Bon, bref, ce sont deux penseurs importants. Après avoir donc défini la violence, puisque c'est le titre qui les rassemble, la violence de la vérité, donc après avoir défini la violence, je vais vous proposer d'examiner comment, en un triple sens, on va entendre ce titre, la violence de la vérité. En quoi la vérité est-elle par essence, violente ? Et en quoi le Christ, qui est la vérité, lit-on en Saint Jean, est-il, pour nos deux penseurs, la seule réponse à la violence? Donc, en même temps, il y a une violence de la vérité, en même temps, la vérité dans le Christ est la réponse à la violence. Normalement, à la fin de ma prise de parole, j'aurais élucidé un peu ce paradoxe. Bon. Mais d'abord, qu'est-ce que la violence? Qu'est-ce que la violence? Alors, René Girard, c'est assez intéressant dans les entretiens. Je vous ferai tout à l'heure un petit passage biographique de l'un et l'autre à travers leurs œuvres. Mais René Girard, notamment dans les entretiens, parce que René Girard n'a jamais écrit que deux livres, je vous le redirai tout à l'heure, mais René Girard, dans les entretiens, il refusait de définir la violence comme une agression. Parce qu'alors, on imagine spontanément que la violence est univoque. Il y a l'agresseur, il y a l'agressé, qu'elle est unilatérale. Et dans cet imaginaire, eh bien, le camp de l'agressé serait pur de toute responsabilité quant à cette violence. Et donc, il disait, en général, c'est plus compliqué que ça, comme on va voir. Et en effet, croire en sa propre innocence, c'est toujours quelque chose qui va entretenir ce que René Girard appelle la violence mimétique. J'y reviendrai tout à l'heure sur la violence mimétique, mais vous savez tous, les enfants, en se disputant, quand vous intervenez enfin, disent que c'est l'autre qui a commencé, ce qui relance sans cesse le cycle des violences. Donc pour Girard, la violence, définir comme une agression, ça peut être trompeur. Il y a une part de vérité, René Girard est toujours très nuancé, mais il dit en général, la violence, c'est... Si on pense que c'est une agression, c'est toujours l'autre qui nous a agressé, toujours. Bon. Donc, pour comprendre ce qu'est la violence, je vais vous proposer de passer à travers ce que Simone Veil dit de la force. Elle a une définition dans un texte magnifique, assez court, très très beau, un texte qui s'appelle « L'Iliade » ou « Le poème de la force ». Donc, elle fait une analyse de l'Iliade, le grand poème d'Homère, en disant que le vrai personnage de l'Iliade, le centre du récit de l'Iliade, ce n'est pas tant les héros qui se battent, c'est la force. Et dans ce texte-là, Simone Weil propose cette définition. Elle dit « La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. » D'accord ? La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Le génie de cette définition est précisément de situer la violence, qui est le point d'aboutissement de la force, hein, qui est la force qui est allée jusqu'au bout d'elle-même, c'est de situer donc la violence de part et d'autre, à la fois du côté de celui qui l'exerce et du côté de celui qui l'a subi. Vous voyez, la définition dit « la force est ce qui fait », alors on s'attend à une définition de la force qui épouse le point de vue de celui qui va effectuer cette force, qui va l'appliquer sur quelqu'un, parce que la force, c'est ce qui, par essence, est efficace. Si elle n'est pas efficace, elle ne mérite pas son nom de force. Donc, la force, c'est ce qui fait, mais elle continue, se faire quelque chose devient un faire de quelqu'un quelque chose. La force, c'est ce qui fait de celui qui l'a subi, de quiconque lui est soumis, une chose. La force, c'est ce qui nous transforme en chose. Cette phrase, vous le savez peut-être, en français, c'est une figure de style qu'il a repérée. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. C'est une anacolute, c'est-à-dire une figure de style par laquelle le sujet attendu de la phrase est démis de l'action qu'on croyait que ce sujet exercerait. Ainsi, dans la célèbre anacolute de Blaise Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus long, la face du monde en aurait été changée. Et le nez de Cléopâtre, on pense que c'est lui qui va être le sujet de la phrase, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus long, c'est-à-dire s'il avait été moins belle, bon, la face du monde aurait été changée, puisque peut-être Jules César ne serait pas tombé amoureux d'elle. Bon. Par cette figure de style, donc Simone Weil exprime ceci. Quand le sujet est la force, quand le sujet de l'action est la force, alors il n'y a plus aucun sujet d'action, mais seulement celui qui l'a subi. Même quand on l'exerce, celui qui l'a subi, la force devient une chose. Et telle est en effet la leçon de l'Iliade d'après Simone Weil. Elle écrit ceci, « Aussi impitoyablement la force écrase, aussi impitoyablement elle enivre quiconque la possède ou croit la posséder. Personne ne la possède véritablement. Personne ne possède la force. » Et donc, de sorte que qu'il y a violence, pour définir la violence cette fois-ci, il y a violence quand deux termes étant mis en rapport, ils ne se trouvent pas pourtant pas être en relation. C'est ça, la violence. Ces deux termes sont mis en rapport sans entrer en relation. La violence, et je vais m'appuyer sur cette définition tout au long de cette intervention, la violence est tout simplement un rapport sans relation. Frapper quelqu'un au hasard des rues est bel et bien un rapport, puisque c'est un contact, hein, mon poing contre ta joue, mais c'est un rapport qui passe outre toute relation. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans un sport de combat où on s'est entendu pour faire un sparring, un entraînement ou que sais-je. Bon. De même, le cambrioleur est en rapport avec vous, puisqu'il a pénétré au cœur de votre intimité et jusque dans votre chambre à coucher, sans toutefois y avoir été invité. Donc il est en rapport, c'est même un rapport très fort, sans relation. Évidemment, le viol est le cas terrible et exemplaire d'un rapport sans relation. Et plus généralement, quand un contact a lieu au mépris du consentement d'autrui, la violence n'est pas loin. Et même, au fond, l'indifférence. Mon fils qui me parle, qui me pose des questions, et moi je lui dis oui. Et puis en fait, je ne l'écoute pas. Quelque part, nous sommes en rapport, mais pas en relation. En quoi peut-on parler de la violence de la vérité? En ce que, pour nos auteurs, la vérité de ce que nous sommes, nous, les êtres humains, c'est-à-dire la manière dont, originellement, le monde s'est ouvert à nous, eh bien, cette manière-là ne nous est pas propre ni propice. Pour nos deux penseurs, la vérité de ce que nous sommes ne nous est pas totalement avantageuse. Un autre coup d'envoi en tant qu'être humain, pour René Girard notamment, n'a rien d'humain, rien avec quoi nous serions en bonne entente, en relation. René Girard est en cela très moderne, et Simone Weil aussi. La modernité, c'est sans doute un rapport à l'antécédent, à tout ce qui nous précède, qui est un rapport critique au début n'est pas forcément le meilleur. Au début n'est pas le principe de tout pur, d'où découlerait toute une quantité de choses très très belles. Non, au commencement, et c'est pour ça que le commencement général, on le recouvre d'un voile pudique, au commencement est quelque chose d'un peu honteux. Nietzsche avait l'expression latine « pudenda origo ». L'origine doit être cachée. Et en effet, le jour qui a vu naître l'humanité est, pour René Girard en tout cas, on regardera chez Simone Veil, le jour qui a vu naître l'humanité est habité de nuit et nocturne. Pourquoi ? Parce que l'hominisation, pour René Girard, vient du meurtre collectif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'œuvre de René Girard. Au fond, il y a trois temps. René Girard, c'était un cancre talentueux, mais un cancre quand même, mais très talentueux, génial. Il faut bien qu'il fasse des études. Alors, il passe le concours de l'école des Chartes, il l'a. Mais faire sa carrière là-dedans, ça ne l'intéresse pas. Il part aux États-Unis, ça l'intéressait. Et aux États-Unis, il enseigne. Il est lecteur d'abord, puis professeur de français, je crois, de littérature. Il apprend l'anglais avec un accent. Il a toujours gardé l'accent d'Avignon quand même. Et là, il commet un livre, en dehors de tout circuit universitaire, qui s'appelle « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Mensonge romantique et vérité romanesque. L'idée de ce livre est très intéressante. Il dit que, en réalité, le mensonge romantique, c'est quoi ? C'est Walt Disney, c'est le coup de foudre, c'est Hollywood. Je désire ce verre, ou je désire cette femme, dans le cas du coup de foudre. Et c'est une relation à deux termes. OK ? Et ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, etc. Sauf que d'ailleurs, il y a la famille qui ne veut pas, mais l'obstacle est levé, etc. René Girard dit que quand on lit les grands romans, Flaubert, dont Proust, Dostoïevski, à commencer par Don Quichotte, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'en fait, le désir, c'est toujours une relation à trois termes. C'est « je veux ce que tu désires », »,« je veux ce que l'autre a ». C'est ça le mécanisme du désir. Il se raconte qu'il est à deux termes, mais en réalité, alors je ne sais plus dans quel Don Juan, mais c'est peut-être c'est pas celui de Molière que j'ai relu récemment, mais c'est peut-être dans Mozart. Il y a un moment donné dans Don Juan entend un homme parler de sa femme, et Don Juan est très intéressé et se met à vouloir la femme dont cet homme parle. Et cet homme, plus il voit que Don Juan est intéressé par sa femme, plus il se dit « mais c'est ma femme ». Et ils se mettent à entrer en rivalité vis-à-vis de cette femme qui n'est même pas encore là, voyez. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a violence, c'est ce que René Girard appelle la violence mimétique ou le désir mimétique d'appropriation. Mimétique, ça veut dire imitation. René Girard est complètement d'accord avec Aristote pour dire que les hommes apprennent par imitation, mais il est plutôt d'accord avec Platon pour dire que l'imitation est inquiétante. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on s'imite. Je veux ce que l'autre a. Et vous faites le test avec les enfants. Il y en a un qui ramasse un truc, même si c'est nul, mais ça devient l'objet d'une dispute. Et pour René Girard, c'est ça la vérité romanesque, c'est que les romans nous disent la vérité du désir. Bon, ça c'est un livre qui a été mal accueilli par l'université française, parce que vous avez un Français qui habite aux États-Unis qui pond une critique littéraire assez géniale, et là ça va avoir un succès chez les professeurs d'Hippocagne et de Cagne, mais pas dans le monde universitaire, parce qu'il ne fait pas partie du monde universitaire. Bon, René Girard, il s'en fout de ça, et d'ailleurs, il arrête, il a continué toute sa vie de lire et de dire des choses géniales sur les romans, mais il passe vraiment à autre chose. Il passe tellement à autre chose qu'il se met à faire de l'anthropologie. Et là, 10 ans plus tard, il fait paraître un autre livre, je crois que c'est en 72, qui s'appelle « La violence et le sacré ». Et là, René Girard dit « mais partout où il y a sacré, il y a sacrifice. Voilà. Partout où il y a sacré, il y a sacrifice. Et ce qu'on sacrifie, c'est le bouc émissaire. Et d'ailleurs, peut-être ça a un rapport avec mon premier livre. C'est-à-dire, dans le livre, j'ai montré que dès qu'il y a un groupe, il y a de la violence. Parce qu'il y a du désir mimétique. Il y a le désir mimétique d'appropriation. Je veux ce que l'autre a. Je ne veux pas un verre d'eau, je veux ce que la publicité, l'économie, tout marche comme ça. Et d'ailleurs, le capitalisme est une manière de résoudre, d'absorber cette violence-là en proposant une multitude de biens. Mais il y a de la violence dans la société. Et pour lui, et c'est ça, la violence et le sacré, en général, comment naît le sacré ? Eh bien, la violence du groupe, Le groupe va la reporter sur un seul, le fameux bouc émissaire. La meute, s'imitant, rentre dans une période d'indifférenciation qui confine à un degré de violence tel qu'on concentre cette violence sur un seul, qui est en général plus faible, qui a un défaut ou c'est des jumeaux, et on le met à mort, et ça va mieux. Et ça marche tout le temps comme ça. Et vous pouvez vérifier, on parle beaucoup de harcèlement scolaire en ce moment, c'est sûr que dans un groupe, souvent, quand je donnais des cours de philosophie à des étudiants qui préparaient les concours des grandes écoles de commerce, c'était des étudiants qui sortaient d'ES, hein, économique et sociale, et finissaient toutes leurs copies en disant « mais l'important, c'est la cohésion sociale ». Vous savez, la cohésion sociale, le mieux pour la faire, c'est d'avoir un plus faible qu'on tabasse tous. Et là, il y a une vraie cohésion sociale. Alors, c'est l'unanimité moins un. René Girard, il disait ça. Le mécanisme du bouc émissaire, c'est l'unanimité moins un. Alors, je leur dis, donc, arrêtez avec la cohésion sociale. C'est pas le plus important. C'est bon. Et ça, c'est le deuxième grand livre de René Girard, un livre assez impressionnant. Tenez, je vous lis, non pas René Girard, mais un commentaire très synthétique que nous a offert un certain François Lagarde dans René Girard ou la christianisation des sciences humaines. Regardez ce qu'il écrit. « Les hommes apaisés par le meurtre collectif et rassemblés autour du cadavre qui les interpelle vont se mettre à penser. Intrigués par le fait que la paix soit revenue, après ce moment de violence où tout le monde s'imite et d'indifférenciation du groupe qui se constitue comme une masse bouillonnante, intrigués par le fait que la paix soit revenue, ils vont chercher à comprendre ce qui s'est passé. Or, dit Girard, les hommes ne vont pas comprendre que la paix est le résultat d'un pur mécanisme. Ils vont penser que c'est à cause de l'homme mort qu'ils se sont battus et qu'ils se sont réconciliés. Que c'est grâce au tué lui-même, et non au meurtre collectif, que la paix est réinstituée. Ce cadavre va prendre à leurs yeux des proportions fabuleuses, magiques, et leur horreur va se transformer en fascination et bientôt en adoration de la personne qu'ils ont tuée, de l'être qu'ils ont tué. Cette victime de leur violence va devenir un dieu. Les hommes inventent le sacré. Et ce sacré sera pour toujours associé à la violence qui les a déchirés et à la violence qui les a réconciliés. C'est-à-dire que les rites de sacrifice qui sont dans toutes les religions, même chrétiennes, il y a un sacrifice, la messe, même la réintroduction par le pape de cette phrase qui fait l'évocation d'un sacrifice, toutes les religions sacrifient. Et pour René Girard, il nous montre quel est le mécanisme au départ et pourquoi on sacrifie, quelle est cette ritualité-là. Eh bien, on rejoue le meurtre qui nous a réconciliés. On le rejoue et d'ailleurs, ça crée quelque chose comme la fonction symbolique. On se dit, c'est un à la place de l'autre. Vous voyez, c'est ça, c'est la manière dont on rentre dans le monde symbolique qui caractérise les êtres humains. C'est aussi par là qu'on invente l'agriculture et l'élevage, parce qu'il faut produire des animaux qu'on va sacrifier. La chasse à piège ne suffit plus. Mais bref, vous comprenez bien qu'au commencement, et c'est là que la vérité de notre condition humaine a quelque chose de violent, au commencement n'est pas le sens, mais le sang. Au commencement est le sang. De même, Simone Veil, d'ailleurs, face aux choses qui ne disent pas leur origine, le sourcil qui se fronce hein, dans la lignée de l'enquête faite par Karl Marx pour remonter le cours de la marchandise et vaincre le fétichisme de la marchandise, Simone Veil entendait se situer à même l'origine de la valeur et elle va l'authentifier par son corps dans la cadence infernale qui épuise le corps et l'âme des ouvriers. Oui, juste, je vais vous parler de 3 secondes de Simone Veil, mais René Girard, je vous ai dit, il y a 3 périodes, mais juste, première période, donc cette exégèse littéraire, mensonge romantique et vérité romanesque, deuxième période, la violence et le sacré, et avec des analyses assez géniales, il dit Œdipe roi. C'est quoi l'histoire d'Œdipe roi? C'est un roi qui règne sur Thèbes, et il y a la peste, et on fait une enquête, ou plutôt il mène l'enquête, mais il découvre que c'est lui-même qui est cause de cette peste, parce qu'il a couché avec sa mère, Jocaste, ok? Et qu'est-ce qu'on fait? On pend la mère, on lui crève les yeux et on l'exile. René Girard dit, une fois qu'on sait le mécanisme du bouc émissaire, on peut refaire l'histoire dans le bon ordre. On s'en est pris à quelqu'un parce qu'il y avait la peste. Mais la peste, c'est une mauvaise ambiance, c'est pas une maladie, il y avait la peste. On s'en prend à Œdipe, dont il est mentionné d'ailleurs qu'il avait un pied beau, qui boitait. Donc on s'en prend à celui qui claudique. On tue son épouse, on lui crève les yeux, on le met dehors. Et ça fait revenir la paix. Et après, on raconte que c'était un roi. Et après, voyez, et lui, il dit d'ailleurs qu'une fois qu'on connaît le mécanisme du bouc émissaire, on peut relire tous les mythes en se disant que les coupables étaient en fait des victimes innocentes. Et ça, c'est la troisième période, ce que va nous révéler le Christ. La troisième période de René Girard, elle est carrément apologétique, hein, c'est-à-dire il se fortifie dans son christianisme grâce à ses recherches, et son christianisme l'aide dans ses recherches à repérer des choses, et il dit, mais au fond, et là c'est tout le reste de son œuvre, alors il était cancre, il n'a pas écrit de troisième livre, il n'a fait après que des livres d'entretien. Ça lui coûtait trop. Alors, il lisait tout le temps, il étudiait, puis un journaliste arrivait, ou un intellectuel, et ça donnait un livre. Donc, il y en a plein des livres de René Girard, mais c'est que des livres d'entretien ou des recueils de textes. Et dans ce troisième temps, il va dire, mais le Christ, lui, a enrayé le mécanisme du bouc émissaire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est lui-même Dieu qui se donne en offrande pour Dieu. Donc, il est innocent, et maintenant, on sait que toutes nos victimes sont innocentes, et que Dieu ne veut pas de victime, puisque c'est Dieu qui se donne lui-même. Et le Christ a révélé le mécanisme du bouc émissaire, tant et si bien qu'on est dans une situation, je vais y revenir à la fin, et ça aussi c'est assez violent, on est dans une situation presque tragique et en même temps hyper intéressante, où, en fait, désormais, tuer un seul caïphe, hein, il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que toute la communauté, eh bien ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les Allemands peuvent tuer 6 millions de Juifs, ça ne ramène pas la cohésion sociale allemande. On peut, les Tutsis, les Hutus peuvent tuer 800 000 Tutsis, ça ne ramène pas la paix. Ça ne marche plus. Le sacrifice du bouc émissaire ne marche plus parce que le Christ l'a révélé. Et quand un mécanisme est révélé, eh bien, il n'opère plus aussi bien. Et donc René Girard a fini. Tout le dernier temps de sa vie à dire, en fait, vous avez le choix. Soit vous continuez, et ça sera en vain, et ça sera de pire en pire, à mettre l'autre à mort, et ça ne ramènera pas la paix, et ce sera des massacres de plus en plus grands, de plus en plus fréquents, soit vous allez célébrer le sacrifice non sanglant, vous allez vivre l'actualisation non sanglante du sacrifice sanglant du Christ qui a mis fin au sacrifice une fois pour toutes. Et vous devez le vivre tous les jours, en n'offrant pas votre cœur à la violence mimétique, en ne rendant pas le coup qu'on vous donne, en n'alimentant pas la haine, etc. etc. Bon. Voilà, ça c'est les trois temps de Girard. Juste pour Simone Veil, elle aussi, elle avait ce sens d'aller chercher le sang, là où on pensait qu'au début il y avait du sens, là où on pensait qu'au début il y a de la logique, que tout va de soi. Non, elle, je ne sais pas si vous la connaissez un peu, mais c'est une jeune fille juive d'une famille tout à fait assimilée. Elle a même elle-même découverte qu'elle était juive. Elle était très anti-judaïque par bien des aspects. Au moment où elle a été privée de ses droits d'enseigner sous Vichy. Mais avant cela, elle avait pris un congé sans solde agrégé de philosophie pour aller travailler chez Alstom et Renault et parler de la cause ouvrière en connaissance de cause. Elle disait, mais à chaque fois que les ouvriers ne sont pas contents, on parle d'une hausse des salaires. Mais imaginez une prostituée de bas étage, ce n'est pas parce qu'on va la payer mieux qu'elle fera un métier qui n'est plus dégradant. Et pour elle, et là c'est vraiment c'est encore très moderne, c'est même encore devant nous, elle dit, mais comment faire pour que l'usine soit un lieu où les grands besoins de l'âme, c'est le premier chapitre de son grand œuvre qu'elle laisse inachevée à 34 ans, l'enracinement. Comment faire pour que les besoins de l'âme de l'ouvrier et de tout à chacun au travail soient nourris ? Le besoin de risque, de responsabilité, de sécurité, d'obéissance, mais aussi, comment faire pour repenser le monde de l'usine, parce qu'il n'y a pas que des hausses de salaire, ça n'est pas d'abord l'enjeu, en tout cas c'est ce qu'elle vit dans sa chair. Et donc, avoir le souci de la vérité, c'est oser un pas de recul qui va jusqu'aux confins de notre humanité, à l'origine, là où l'humain, c'est très clair chez René Girard, là où l'humain se confond encore avec l'inhumain. Au commencement de l'humain, il n'y a pas le bien qui serait par lui-même sacré et qui exige pour cela que nous lui sacrifions, pour Girard en tout cas, il y a au début de l'humain une violence mimétique qui est productrice du deux sacré par le sacrifice, c'est-à-dire par le meurtre collectif réitéré. Et donc, il y a une certaine violence déceptive de la vérité. Elle est là pour nous décevoir d'abord. On ne va pas en rester là, on ira plus loin, mais il y a une certaine violence déceptive. Et en effet, Simone Veil, comme René Girard, va faire du sacrifice la pierre de touche de toutes les religions et même de toutes les cultures. Et comme René Girard, elle va rappeler sans cesse l'innocence de la victime dans cette mise à mort. Et elle était impressionnée, Simone Veil, par la question de Jésus. Pourquoi me fais-tu du mal ? Elle dit c'est la question de l'innocent qu'on mène à la mort. Pourquoi me fais-tu du mal ? Et le Christ la pose, cette question, parce que rien ne justifie le mal que l'on lui fait. Et donc, en effet, le sacrifice de l'innocent est la pierre de touche. Et cette pierre de touche, au fondement de toute culture, précise René Girard, n'a d'autre consistance que son rejet. Il écrit dans « La voie méconnue du réel », on ne sait rien d'autre de cette pierre, sinon qu'elle est rejetée. Ça, c'est passionnant, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup dans ce qui nous fait humains, mais pas à travers René Girard, dont je parle un peu, pas à travers Simone Veil, dont je parle un peu aussi, mais à travers l'œuvre d'un autre grand philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, lui, dans les camps, il a étudié la figure du musulman. C'est pas un musulman, c'est un surnom qu'on donne à ces êtres qui, dans les camps, ont lâché le plan de leur humanité. C'est des êtres à qui on avait donné, d'ailleurs, dans tous les camps de concentration, ils avaient reçu ce surnom. Alors pourquoi ? Il y a eu beaucoup de recherches, peut-être parce qu'ils se parlaient tout seuls, peut-être parce qu'ils étaient soumis, comme le veut l'étymologie islam, soumission en arabe, peut-être parce qu'ils se frottaient comme ça la poitrine, de telle sorte qu'on avait l'impression qu'ils disaient des prières, etc. Et en fait, Giorgio Agamben, lui, montre que la logique du camp est de produire le musulman. Et il montre même que, ce qui est un peu étonnant dans la question « ce qui nous fait humain », c'est que l'inhumain dans les camps, pour celui qui se trouve pour le détenu, ce n'est pas le SS, ce n'est pas le capot, c'est le musulman. C'est lui qu'il ne faut jamais devenir. C'est lui qui fait qu'on est encore humain, parce qu'on n'est pas encore devenu cet inhumain qui est le musulman. Bruno Bettelheim, il a des phrases terrible quelque part, mais très sincère, sur ces hommes qui avaient lâché toute dignité humaine et qui mangeaient les épluchures d'oignons par terre. Ils sont très très rares, il y a Robert Antelme, Primo Levi. Primo Levi, il comprend, dans Si c'est un homme, que c'était eux les plus humains du camp, c'était eux qui disaient la vérité du camp, alors que même pendant le camp, il dit, en effet, je témoignais de mon humanité pour moi-même, en m'écartant de ces hommes-là. Et après, il veut témoigner pour ceux qui étaient sans témoins, c'est-à-dire pour tous ces êtres-là. Bon, voilà. Et donc, c'est un livre qui commence dans les camps et qui finit dans le champ poétique, parce que je montre justement comment habiter le sous-titre. Mais vous voyez, le sous-titre a fait tellement peur à l'éditeur qu'il a fait « Ce qui nous fait humains », il a mis un bandeau, Martin Stephens, et le sous-titre arrive « Une métaphysique des marges ». Bon, et c'est un livre qui interroge, voilà... d'ailleurs, un livre très franciscain. Ça finit sur Saint François d'Assise, c'est à fond, et sur la manière, sur le corps de Saint François à sa mort, dont on a découvert qu'il était en effet il n'a pas cherché à sauver sa peau. C'est la marge de lui-même, il l'a offerte. Et donc, c'est comment, en tant que chrétien, on doit penser la marge et se situer dans la marge pour ouvrir cette société, parce que des musulmanes, là, il y en a toujours. Bon, bref. Je reviens là-dessus, mais voyez, c'est un peu la même idée. Ce qui me fait humain, c'est que j'ai la capacité de refuser ce titre à un autre, à un semblable. À un semblable, semblable, Shem, que vous avez dans The Same en anglais, Shem en indo-européen, ça veut dire le même. Able, c'est possiblement le même. Mon semblable, c'est celui qui est possiblement le même. Ce qui est très intéressant, c'est que les processus des déshumanisations que j'étudie, c'est toujours par rapport à un semblable, dont j'ai, moi, la capacité de dire « Mais non, tu ne seras pas le même, same, able, tu ne seras pas ce même que moi. Moi, je suis mieux, moi, je suis autre, moi, je suis, etc. » Bon, voilà. Donc, première vérité première violence de la vérité, c'est le fait d'oser lever le voile. J'avance un peu parce que je vais essayer de tenir plus ou moins le délai de vous parler, si ça vous va, 45 minutes. Et puis après, nous pourrons échanger ou peut-être 48 minutes. Voilà. En tout cas, Simone Weil, c'est très clair aussi que pour elle, la vérité, en philosophie, on dit la vérité, c'est l'adéquation de la chose avec l'esprit humain. L'adéquation de la chose et de l'intelligence humaine. Hein. Une vraie cruche, ça c'est une vraie cruche. La chose correspond à ce que l'esprit humain a défini comme cruche, où il fait beau, cela est vrai. Eh bien, l'énoncé correspond, donc l'énoncé qui sort de l'esprit humain correspond à la réalité. Bon. Mais nos penseurs, René Girard ou Simone Weil, disent que on ne peut pas approcher la vérité si on ne passe pas par un moment d'inadéquation entre la chose et l'esprit humain. Toute vérité a quelque chose qu'on aimerait bien recouvrir. Pour Simone Weil, c'est très clair. Elle dit que le monde est entré en elle quand elle travaillait à l'usine et qu'elle a fait l'expérience du malheur. Et comment elle définit le malheur? Elle dit « Le malheur, c'est ce qui rend Dieu plus absent qu'un mort. C'est l'impression de ne compter pour rien. » Dans cette cadence à l'usine qui n'avait rien du rythme de la vie, la cadence n'était pas un rythme, eh bien, elle a fait l'expérience d'être complètement dépassée. Alors, il y a des biographes qui ont dit « Oui, mais c'est parce qu'elle était de constitution chétive et tout. » Bon, en fait, pas du tout. Dans les années 30, c'était vraiment violent. Elle était même finalement plutôt vaillante, même si c'est vrai que c'était pas quelqu'un qui était très doué avec ses quatre membres. Elle a fait la guerre d'Espagne. Ses parents, qui étaient fous d'inquiétude pour elle, l'avaient suivie. Et heureusement pour eux, au bout d'un mois, elle a dû être rapatriée. Pourquoi? Elle s'est pris une balle et tout. Non, elle a mis le pied, elle ne voyait rien, elle était très myope, elle a mis le pied dans l'huile bouillante qu'on faisait chauffer pour faire de la friture. Bon, vous voyez, ça c'est Simone Weil, c'est Charlie Chaplin. Quoi. Bon. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est le deuxième sens de la violence de la vérité, et ça c'est quelque chose qui est important pour notre époque, c'est que, au fond, vous voyez, Simone Weil comme René Girard sont très proches de Nietzsche. Moi, je suis passé de Nietzsche avant ma conversion, à Simone Weil après ma conversion. Et René Girard, c'est beaucoup plus récent. Mais Nietzsche, en effet, il dit comme eux que au commencement est l'inhumain. Lui, il appelle ça Dionysos. Dionysos, c'est quoi? C'est le fait que au commencement n'est pas le verbe, mais la folie, l'ivresse, quelque chose. Il appelle ça aussi l'innocence du devenir. On tue quelqu'un, ça donne la fonction symbolique, ça donne l'humanité, ça donne les cathédrales et tout, mais au départ, ça commence dans la violence. Et Nietzsche, il dit que le christianisme est une sorte de maladie, parce que le christianisme a voulu exclure, comme l'avait fait Panté dans les mythes, a voulu exclure Dionysos, or il faut assumer la violence. Alors, comme si le christianisme n'assumait pas la violence, comme si la passion n'existait pas. Mais bon, Nietzsche, il en appelle à une violence salvatrice, à un retour de Dionysos, à un retour du sacrifice, à un retour du sang rédempteur. Bref, un retour du paganisme. Et je vous promets qu'il y en a beaucoup qui parlent comme ça à nouveau. Et finalement, peut-être quelqu'un comme Trump et tout, mais il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais il faudrait refaire couler le sang pour qu'on sache bon, au moins ce que c'est. Bon. » Pour René Girard, ça ne marchera pas, vous l'avez compris. Et c'est la deuxième violence de la vérité, c'est que en plus de cette violence originaire, on ne peut rien en faire. On ne peut pas en capter la violence comme souhaitait Nietzsche, mais pas que Nietzsche, toute une Allemagne à un moment donné, peut-être Wagner, il fut un temps, faire une musique comme ça, du vertige qui nous remet dans les tripes païennes. René Girard se sépare de Nietzsche en ce que l'invocation nietzschienne de Dionysos, le souhait du retour en lieu et place du ressentiment chrétien, dit Nietzsche, le retour donc à une sacrificialité sanglante est pour René Girard une manière bourgeoise de se payer de mots. Il écrit, c'est aussi dans La Voix méconnue, du réel, « Pareille légèreté ne serait fleurir qu'en des siècles aussi privilégiés que les nôtres, en des contrées privilégiées du monde où la véritable vengeance a battu si loin en retraite que la terreur qu'elle provoquait jadis n'évoque plus rien. » En ce moment, il y a un essai qui marche pas mal, qui a l'air très très bien. L'autrice, son nom m'échappe, sur reconnaître le désir de vengeance. Reconnaître le désir de vengeance, mais bien sûr, bien sûr. Et même reconnaître que la justice est une vengeance instituée. Mais attention, Laurence de Villers, merci beaucoup, Marguerite. Mais attention, la vengeance, c'est-à-dire faire couler le sang, si on devait revenir à ce régime, eh bien, il y aurait quelque chose voilà, qu'on peut toujours écrire, on peut toujours souhaiter le retour au paganisme, le retour au sacrifice, le retour. Peut-être qu'il vaut mieux avoir un peu de ressentiment, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi le ressentiment chez Nietzsche? C'est le fait que notre violence, au lieu de l'expulser vers l'extérieur, on est obligé de ravaler sa salive. Eh bien, c'est peut-être pas grave. Oui, on a de l'eczéma. Parce qu'on met plus de bébés ou de vierges à mort. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas? Vaut mieux une société avec un peu de ressentiment qu'avec tellement de violence et tellement de sacrifices d'innocents. Donc la seconde violence de la vérité chez nos deux penseurs, c'est que de cette violence première, celle dont je vous ai parlé, on ne peut rien faire. René Girard insiste dans un livre qui s'appelle « Achever Clausewitz », qui est un livre d'entretien donc, avec Benoît Chantre, un bon ami à moi. Il dit ceci, « Le christianisme a révélé depuis plus de 2000 ans l'inanité des sacrifices, n'en déplaise à ceux qui voudraient encore croire à leur utilité. » Bon. J'étais censuré récemment, j'étais interrogé par la revue philosophique de chez Vrin, alors j'étais très content. Et puis à un moment donné, il y avait une question, c'est « Mais comment vous parlez d'actualité à vos étudiants ?» Et si vous prenez le dernier fait d'actualité du jour, comment vous en parleriez ? Et le dernier fait d'actualité, c'était la cérémonie des JO, des Jeux Olympiques, et le scandale qu'elle avait propagé dans le monde entier. Et donc, je prends ça comme exemple, parce qu'il est là, et parce que je trouve ça intéressant de dire, oui, on a blasphémé la scène de Léonard de Vinci. Blasphémer une œuvre d'art, ça n'existe pas. On ne peut pas blasphémer une œuvre d'art. Bon. Puis le christianisme et le blasphème, quand vous avez vu la passion, comme dirait Henri Quentin, mais à chaque crachat qu'on fait sur une photo du Christ, on rajoute à sa passion. Le christianisme est sans doute au-delà du blasphème. Ce n'est pas une religion comme ça qui, à mon avis. Bon, et en fait, d'ailleurs, est-ce que les peuples du monde entier, par quoi ils ont été choqués? Mais ce qui m'intéresse, c'est que la scène, en réalité, la scène est un blasphème. Qu'est-ce que blasphème la scène? Eh bien, elle blasphème les cérémonies sacrées dionysiaques. C'est-à-dire que la scène, là où le Christ rassemble les gens qu'il aime, et il dit « je vais donner mon corps et mon sang pour que vous ayez la vie », eh bien, c'est une subversion radicale des banquets lors desquels on se rassemblait et on mettait à mort une jeune fille, un jeune garçon qu'on mangeait. D'accord ? Donc c'est la scène qui est blasphématrice, c'est elle qui est profanatrice du sacré païen. Et ce qui a pu inquiéter en fait tous les peuples du monde, mais sans qu'ils le formulent bien, c'est peut-être la présence dans un banquet dionysiaque, d'accord ? Dionysiaque, rigolo, Philippe Catherine, tout nu, la présence d'une petite fille. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui, instinctivement, a fait se lever les peuples, notamment du Sud, en disant « Mais c'est quoi ?» Mais voilà, mais c'était pas par rapport, à mon avis, à la scène de Léonard de Vinci. Mais ça, c'est pas passé, du coup, l'interview est tombée dans les oubliettes, parce que en fait, c'est quelque chose de sensible, à mon avis, cette histoire de paganisme de nos jours. On voudrait revenir au paganisme. Je crois que le christianisme a fait un grand bond en avant, mais ce bond a quelque chose de terrible. Pour René Girard, il dit, en effet, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Et c'est ça, en un troisième sens. Alors, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais au fond, je vais me taire pour qu'il y ait aussi des questions. Je vais sacrifier mon temps de parole pour que... Bref. Nous sommes à la croisée des chemins au sens où, en effet, la volonté de faire meute pour mettre à mort le plus faible, ou le désir d'entrer dans la violence mimétique, c'est-à-dire de ne pas imiter le Christ, parce que si vous imitez le Christ, vous cassez la violence mimétique d'appropriation. Vous la cassez, vous imitez, voilà. Mais tous ces sacrifices, par quoi on n'alimente pas la violence, ou on ne la projette pas sur tel ou tel être dans leur moment de faiblesse, eh bien, c'est le grand choix devant lequel nous sommes placés. Et au fond, et c'est là aussi où Simone Veil et René Girard sont très proches l'un de l'autre, c'est que d'une part, donc, ils disent qu'au commencement n'est pas quelque chose de si beau, ils osent aller voir porter l'enquête de là où ça fait mal, là où l'on fait le mal. Alors, on pourrait dire jusqu'au péché originel, que Simone Veil appelle la pesanteur. Simone Veil, elle en fait l'expérience lors de la guerre d'Espagne. Elle voit vraiment une fraternité magnifique. Elle était au Parti ouvrier d'unification marxiste, le POUM. Elle lit des gens admirables, fraternels. Mais au bout de 10 jours de guerre, en arrivée dans un village, on commençait par en fusiller 2 ou 3, gratuitement. Des jeunes hommes de 16 ans qu'on suspectait d'être fascistes. Le prêtre, parce que ça, il a sonné les cloches, mais ils n'arrêtent pas de se faire piller. Ah oui, s'il sonne les cloches, c'est parce que c'est un fasciste. Boum, une balle dans la tête. Elle dit, quand on a le droit de tuer, eh bien, j'ai la citation quelque part, quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, on tue. Une vérité qu'elle appelle la pesanteur. Donc, violence de la vérité au sens où ils vont jusque-là. Violence de la vérité au sens où cette violence-là, on ne peut rien en faire. On est obligé d'aller de l'avant. Et du coup, troisièmement, violence de la vérité au sens où le Christ nous dit « Soyez parfaits ». Au sens où la proposition que nous fait le Christ, c'est de dire « Le mal, et le mal n'est rien que le mal », de telle sorte que vous n'en tirerez jamais rien de bon. N'allez pas dans le sens là. Le mal est le mal, il n'est rien que le mal. Ces œuvres-là, ne les alimentez pas, ne revenez pas au fait que oui, si on en tue un, il y aura plus de paix pour tout le monde. Oui, mais on abandonne ça. Bon. Mais si le mal est le mal et n'est pas producteur du bien, ça veut dire que le mal, le sens que nous en avons, la lucidité que nous avons vis-à-vis de lui, nous a été révélée par quelque chose qui est du bien et qui est purement du bien. Ce qui fait que, en effet, nous avons devant nous la vie et la mort, et il nous est demandé de choisir la vie. De choisir la vie. Et cette phrase, elle est intéressante d'ailleurs dans le Deutéronome, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment devant nous la vie et la mort. Parce qu'en fait, nous sommes en vie. Nous sommes portés par la vie. Donc en fait, on a devant nous la mort possible. Et la vie, il y a juste à la laisser couler. Et au fond, renoncer aux œuvres de Satan, c'est sans doute avoir la lucidité de savoir que cette violence-là, elle est nôtre, elle nous traverse. Hein, elle est à portée de nos pierres. On est là pour lapider la femme adultère. Et le Christ, voilà, avec sa phrase, il renvoie chacun à sa violence. Et les plus vieux partent en premier, comme vous le savez. Et au fond, voilà, la grande proposition qui nous est faite, c'est d'être parfait. Je cite René Girard, je pense avec Pascal que la vérité livre en ce moment une guerre essentielle à la violence. Le Christ est venu apporter la guerre qui est beaucoup plus qu'un retour à la vie simple. Il dit ça parce que voilà, les philosophes au XXe siècle, voyant la catastrophe possible, comme Bergson ou Heidegger, en ont appelé à une vie plus simple, à une sérénité. Pour René Girard, nous sommes emportés dans une marche en avant où il y aura de plus en plus de violence, c'est ce qu'il appelle la montée aux extrêmes avec Clausewitz, achevé Clausewitz, il y aura de plus en plus de violence qui se déchaînera et en même temps de plus en plus de sainteté qui se révélera. Parce que les choses n'ont jamais été aussi claires, comme dans une apocalypse, un moment de révélation. Regardez ce qu'il écrit dans Achevé Clausewitz, page 48, le paradoxe incroyable que personne ne veut accepter et que la passion a libéré la violence en même temps que la sainteté. Pourquoi la passion a libéré la violence en même temps que la sainteté? Eh bien, parce que la passion a révélé le mécanisme du bouc émissaire. Du coup, il ne sera plus effectif. Du coup, il ne s'agit pas... Si vous voulez, quand vous faites de l'ethnologie, c'est assez fascinant. La guerre est un sacrifice. C'est-à-dire que les peuplades se donnent rendez-vous à tel solstice, à telle lune, pour se faire la guerre. Dès qu'il y en a un qui meurt, on arrête. Chacun retourne chez soi. Il n'y a pas de conquête de territoire. Hein. C'est des tribus qui gèrent comme ça leur population, qui restent... Bon. En fait, de nos jours, ce n'est plus du tout ça, parce que le sacrifice ne marche plus. Donc, ça a libéré la violence en même temps que la sainteté, la possibilité d'y renoncer. Et chez Simone Veil, je ne sais pas si vous connaissez un peu sa vie, mais sa conversion, elle l'a complètement eue. Elle était à Solesmes au moment de Pâques, et Simone Veil avait des migraines atroces. Et elle raconte que quand quelqu'un venait lui parler, elle avait envie d'asséner un coup à cette personne exactement là où elle avait mal. C'est la présence de son prochain lui était insupportable et qu'en plus, elle voulait faire mal à proportion, elle voulait combler, c'est ce qu'elle appelle la pesanteur. La pesanteur, c'est de vouloir combler le vide que fait en nous, par exemple, la douleur, en le remplissant, en l'occurrence, de la douleur de l'autre. Et elle dit, dans ces moments-là, un jeune Anglais lui avait donné un poème qui s'appelle Love de George Herbert. Et en fait, à ce moment-là, elle récitait ce poème-là pour pas avoir ses pensées. Pour, au plus fort du malheur, la douleur vous rend la présence à vous-même impossible. Au plus fort du malheur, elle récitait ce poème et elle disait « Je ne savais pas que ça faisait office de prière. » Et à ce moment-là, le Christ est descendu, dit-elle, et m'a prise, et m'a emporté. Et voilà. Un petit mot de conclusion que je vais... Sur quoi je vais finir. Donc, l'augmentation planétaire de la violence que René Girard donc, nomme, je vous ai dit, avec Clausewitz, la montée aux extrêmes. Pour René Girard, cette augmentation planétaire de la violence vient d'un rendez-vous manqué avec le Christ. Le mécanisme du meurtre fondateur, nous ayant été révélé, il n'opère plus. Nous continuons pourtant à faire appel à lui. Et donc, plus ce rendez-vous est manqué, plus nous déchaînons une violence que rien n'arrête. Un rendez-vous, j'aime bien, notamment après toutes les prises de parole du pape Léon XIV sur cette paix désarmée, le rendez-vous avec le Christ, c'est aussi le rendez-vous déposer les armes. C'est fini. Et au fond, il y a un rendez-vous manqué, et René Girard, il dit, la religion chrétienne est la seule qui s'est bâtie et qui a fleuri en pensant son propre échec. C'est-à-dire qu'en fait, tous les textes apocalyptiques sont des textes qui disent que ça ne va pas marcher, que le Christ ne va pas être entendu, qu'on ne va pas être à la hauteur de ce qu'il propose. Donc c'est une religion qui prévoit son propre échec, son florissement et l'augmentation de la sainteté, mais aussi le fait que ce qui risque de gagner, c'est plutôt la montée aux extrêmes, le déchaînement de la violence que l'avènement du royaume. C'est intéressant. Et donc, voilà, s'il y a un rendez-vous manqué avec le Christ, hein, nous la déchaînons, cette violence, dans la mesure exacte et paradoxale où cette violence n'est plus productrice de paix. Voilà, depuis que le Christ a révélé le mécanisme du bouc émissaire. Et cela m'a fait penser à un texte de Simone Weil qui est mystérieux, mais que je vous lis quand même. « Dieu et l'humanité, écrit-elle dans La connaissance surnaturelle, Dieu et l'humanité sont comme un amant et une amante qui ont fait erreur sur le lieu du rendez-vous. Chacun est là avant l'heure, mais chacun dans un endroit différent. Et ils attendent, attendent, attendent. L'amant est debout, immobile, cloué sur place pour la perpétuité des temps. L'amante est distraite et impatiente. Malheur à elle si elle en a assez et si elle s'en va. Car les deux points où ils se trouvent sont le même point dans la quatrième dimension. » C'est pas du tout la quatrième dimension extraterrestre. Qu'est-ce que c'est que cette quatrième dimension? C'est que pour Simone Weil, en réalité, où que nous soyons, nous avons rendez-vous avec Dieu. En fait, Dieu est toujours là, mais dans cette autre dimension, et c'est une dimension que toute sa vie explore, c'est une dimension où, en effet, il nous est à tout moment demandé par le visage de notre prochain, « Veux-tu en faire ton semblable ?» Où vas-tu rentrer dans la violence mimétique d'appropriation? C'est un moment où il nous est demandé même de renoncer à nos plus grands idéaux, parce que en allant vers ces idéaux, on a vu quelqu'un s'effondrer sur le bord du chemin et on se prête à lui. Et c'est ça la quatrième dimension qui, voilà, malheur à nous si nous allons voir ailleurs, parce qu'en fait Dieu est là, est pleinement là, est perpétuellement là, et il est là dans le renoncement à sa part de pesanteur, c'est ce qu'elle appelle l'entrée dans la grâce. Je vous cite à nouveau René Girard, « Nous sommes plus que jamais en guerre, à l'heure où la guerre, privée de sa fécondité sacrificielle, n'existe plus. Nous avons à combattre une violence que plus rien ne contraint ni ne maîtrise. Mais si l'essentiel n'était pas de triompher, et si la bataille elle-même valait plus que la victoire. » Et donc, ces deux penseurs nous invitent à une bataille quotidienne, magnifique, splendide, quoique intime. Mais au fond, le Christ dit, tout ça se passe dans le secret, et il y a plus de joie au ciel quand un pécheur se convertit que quand 99 justes restent justes. Bon, et c'est une bataille quotidienne, apparemment inutile, mais à la renonciation donc, de cette violence propre. Et Simone Weil parle pour cela, et si vous avez un texte à lire, enfin il y a plein de textes, mais lisez par exemple pour notre temps, je trouve, « Luttons-nous pour la justice ». Là, on parle de retour à la guerre, etc. Mais elle, en pleine guerre, elle se pose la question, alors que le but, c'est de bouter les Allemands, les nazis hors du territoire français. Elle écrit un texte, elle est à Londres, luttons-nous pour la justice ? Elle ose poser la question, mais est-ce que nous, on est en train de lutter pour la justice ? Ou est-ce qu'on veut juste récupérer notre territoire et que tout reviendra au même ? Et elle pose cette question et elle parle dans ce texte de la folie d'amour. Et c'est un texte magnifique, elle dit la folie d'amour, quand on l'a, quand on l'attrape, on est comme un affamé qui se promène en ville et qui regarde les restaurants ou les gens qui mangent des glaces. Eh bien, on a ça, sauf qu'en fait, ce qui attise notre désir, c'est tous les consentements qui ne peuvent pas se donner. C'est toutes les vies qui seront... Je lui donne la parole. La folie d'amour contraint à abandonner toute chose pour la compassion. Et comme dit saint Paul du Christ, à se vider. Ce consentement soustrait l'âme au mal, ce consentement à la vertu miraculeuse de transformer dans l'âme où il a lieu le mal en bien, l'injustice en justice. Et en fait, ce que René Girard appelle le renoncement à la violence mimétique, Simone Veil nomme cela la folie d'amour. Et je vais finir par citer Léon XIV, qui, lors du Dimanche des Rameaux, écrivait ceci, qui est à la fois très girardien et très veilien. Nous regardons Jésus qui se présente comme le roi de la paix, alors qu'autour de lui la guerre se prépare, lui reste ferme dans la douceur, tandis que les autres s'agitent dans la violence. Il s'offre comme une caresse pour l'humanité, tandis que d'autres brandissent épées et bâtons. Frères et sœurs, voici notre Dieu, Jésus, roi de la paix, un Dieu qui refuse la guerre, qu'aucun dirigeant ne peut invoquer pour justifier la guerre, qui n'écoute pas la prière de ceux qui font la guerre et rejette celle-ci en disant « Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Merci.
La parole est à la salle. N'hésitez pas.
On peut faire passer le micro.
Oui. De revenir sur un petit détail de tout à l'heure.
Oui.
Quand vous parliez de, comment dire, du fait qu'au fond, on serait tous capables de tuer si on savait qu'on ne risquait rien.
Oui.
Même si en plus on savait que cet homme qu'on serait à tuer, on ne le connaît même pas.
Oui.
Il y a c'est Pascal qui dit un illustre inconnu.
Oui.
On pourrait rayer de la carte comme ça par une simple croix. Mais moi, je suis peut-être frappé par autre chose, c'est ce besoin qu'on a au fond de justifier.
Oui.
Et un truc qu'on a vu dans des films comme La Vague ou autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous donne une bonne raison de le faire, on est capable de tuer sans l'ombre d'un remords.
Mmh.
On se donne même raison de l'avoir fait.
Mmh.
Ben, il suffit de voir par exemple comment les grandes idéologies ont pu utiliser des mots-clés. Le juif a supprimé l'espèce méprisable qu'il fallait éliminer. Mmh. Je sais pas, il me semble que on aime bien quand même se trouver des justifications.
Tout à fait.
Et on peut tuer même au nom de Dieu.
Ah ouais, bien sûr. Ah mais quand on demande dans notre Père que ton nom soit sanctifié, mais c'est parce qu'il n'arrête pas d'être traîné dans la boue. On n'arrête pas de l'écrire sur des obus. C'est vraiment. Oui, tout à fait. Même au nom de Dieu. Alors est-ce que René Girard dirait peut-être que ses idéaux sont simplement des prête-noms, des masques du fait qu'on cherche à faire groupe, ce faisant, et qu'au fond, ce qui justifie ultimement, ce qui donne l'élan de tuer, ça reste le groupe, et que, comme disait Nietzsche, au fond, Nietzsche disait, mais alors lui, pour valoriser, il dit, ce n'est pas la bonne cause qui justifie la guerre, c'est une bonne guerre qui justifie n'importe quelle cause. Voilà, c'est n'importe quelle cause. Donc au fond, est-ce que c'est pas... voilà, finalement, on voit bien que, vous voyez, la bonne cause de Trump, elle n'arrête pas de varier. Voilà, mais c'est vrai que ceci étant dit, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, et René Girard est très attentif là-dessus, c'est que, au fond, c'est trop tard pour la violence. Et là, je suis complètement d'accord avec vous, c'est que on a besoin de se justifier. On a besoin de se justifier. Et même si on voit des phénomènes de violence de groupe gratuite, hein, sans justification, des groupes de 13 qui en tabassent un, ils ne le connaissaient même pas. Bon. Mais c'est vrai qu'on a besoin de se justifier. Et là, c'est un autre Veil, Eric Veil, qui disait que, de toute façon, dès lors qu'on rentre dans le dialogue, dans la parole, dans le discours, on a déjà renoncé à la violence. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend absurde d'écrire toute une œuvre comme Nietzsche pour valoriser la violence. Parce que, au fond, quand on est rentré dans le logos, dans le discours, on est dans l'au-delà de la violence, qui fait qu'il y a quelque chose d'un peu monstrueux de chercher des justifications à la violence, sachant que, étant entré dans la parole, quelque part, c'est que on a renoncé à tuer l'autre, puisqu'on est en train de lui dire quelque chose et de se rendre intelligible à lui. Donc, c'est très frappant dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias. Dans le Gorgias, vous avez Calliclès. C'est très drôle parce que Calliclès, ce n'est pas un personnage historique. C'est-à-dire que Platon, on ne s'imagine même pas, mais quand il écrit des dialogues avec des gars qui existent. C'est-à-dire Gorgias, c'est un sophiste qui existait, Parménide, Protagoras. C'est comme si on écrivait de nos jours, je ne sais pas, le Hollande, le Macron. Vous voyez, bon. Mais Calliclès, il l'invente. Donc en fait, Calliclès, c'est lui avant qu'il rencontre Socrate, je pense. Et Calliclès, lui, il valorise le panache. Il dit, mais la philosophie, c'est fait pour les jeunes hommes comme quand ils veulent pécho, quoi, quand ils veulent se faire admirer, séduire. Mais sinon, ça sert à rien. Et t'es vieux, t'en fais, c'est ridicule. Il n'y a que la force. Et en fait, Socrate le fait parler. Ah, mais ça m'intéresse. Tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et Calliclès se met à parler. Et en fait, se mettant à parler, il entre dans autre chose que la force brute. Et en fait, à la fin, Calliclès, il boude, il se tait, il se dit, il m'a eu, parce qu'il m'a donné la parole. Et à partir du moment où je parle, je montre par les faits que, en fait, si je veux avoir raison en disant que la force est la seule maîtresse, je tue Socrate. Bon. Mais si je ne l'ai pas tué, c'est que je suis dans autre chose. Donc, je suis d'accord avec vous, le fait qu'on a besoin, le régime nazi a eu besoin de biologistes, beaucoup, de théoriciens du droit, pas mal, pour justifier l'état d'urgence. Oh. Total et l'extermination, la mise en camp de concentration, beaucoup de médecins par le typhus, pour les gitans, etc. Ouais. C'est vrai qu'on a besoin de se justifier.
Mais ça amène le glissement de l'idée dans l'idéologie.
Oui, bien sûr.
Et c'est là que ça dérape, parce que finalement, quand on voit, il y a des idéologies qui manifestement, ça crève des yeux, elles ne sont pas bonnes. Il y en a d'autres, je pense au communisme du début. L'idée de vouloir le partage des biens, la valorisation des hommes par le travail, ça pourrait paraître. Et même le christianisme.
Bien sûr.
Rassurez-vous les uns les autres. Et pourtant, on a pu transformer aussi à certains moments le christianisme en idéologie au nom de laquelle on allait tuer.
Bien sûr.
Et ce glissement-là, on se donne pourtant de bonnes raisons, justement, en discutant. Et on ne perd pas toujours le bout qu'il y avait derrière.
Oui, tout à fait. Mais c'est aussi qu'on n'est pas incarné. C'est-à-dire qu'il y a idéologie. C'est David Graeber, un penseur américain là, qui est mort il y a 4-5 ans, je crois. Et David Graeber, lui, il parle du communisme spontané. Dans son livre « La dette, 5000 ans d'histoire », il dit, en fait, le communisme est partout, dans une famille. Personne n'a dit à son enfant de 18 ans, « Bon courage, voilà ». 183 242 euros et 76 centimes. Je ne te compte pas les trajets vers le judo. Ça, c'est pour moi. Je ne te compte pas non plus, mais voilà, j'ai tenu. Voilà. Vous voyez, on est en dette. On est. Et en fait, il y a un communisme spontané dans la famille, mais dans le village, avec les voisins. Vous voyez, là je ne compte pas le nombre de mots. Jérôme, il ne compte pas. En fait, le communisme spontané. Et en fait, sans ce communisme-là, il n'y a même pas d'économie. Mais c'est parce qu'il est vécu. Il est vécu. Mais dès lors que vous voulez en faire un système, là, ça devient plus inquiétant. D'ailleurs, David Graeber, c'est lui qui rappelait, mais vous connaissez sans doute ça, que quand le roi se prête au jeu de voir que cet homme, combien te dois-je, je vais te rembourser, ce sujet du roi, et le roi lui dit 10 000 écus, et en fait, lui, il fait le calcul, il dit c'est 4 000 milliards de dollars. Et le gars, il y va. En plus, il veut. On ne peut pas rembourser le don de Dieu. On ne peut le transmettre. Hein. Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi. Là. En fait, en donnant à d'autres. Bon. Mais le glissement vers l'idéologie, c'est quand on se désincarne. Mais sinon, en fait, le communisme est déjà là. Il est vécu dans les actes des apôtres. C'est aussi un communisme du travail. Hein. Qui veut manger travaille selon ses forces et tout. Donc, c'est aussi que tout le monde travaille. Hein. Mais c'est. Et voilà, et dès lors que vous mettez la grande machine rationnelle étatiste derrière, qui est inconsciente de sa propre puissance et qui dit surpuissance, dit risque de ce qu'on a décrit, de cette violence de la montée aux extrêmes. Oui ?
J'avais une question. question par rapport à ce que vous avez dit à la fin. Vous avez parlé de la folie d'amour.
Oui.
Contraint à abandonner tout chose pour de la compassion en citant Simone Veil et cette capacité à transformer le mal en bien, la justice en justice. Évidemment, ça nous fait penser à la croix du Christ.
Oui.
Benoît XVI disait que c'était vraiment le moment où le Seigneur a fait de ce qui était le mal absolu, le bien absolu.
Il oui.
a fait de l'instrument de mort un instrument de vie et de l'instrument de malédiction un instrument de bénédiction. Et je voudrais le rapprocher de ce que vous avez dit, parce que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. À propos de la cérémonie des Jeux Olympiques,
oui.
j'avoue que moi, je l'ai senti comme une violence. Une violence parce que justement, c'est l'acte par excellence. Le Seigneur donne sa vie pour tous. Et je l'ai pris comme une violence de ce qui est, à mes yeux, ce qu'il y a de plus sacré. Le pape François, d'ailleurs, l'avait dit aussi. Et je voudrais mieux comprendre ce que vous pensez exactement.
En fait, ce que je pense exactement sur la cérémonie des JO, c'est que finalement, ça a choqué. Et que tout de suite, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tout de suite, j'ai lu des choses. Ils ont dit non, ce n'est pas une scène, c'était pas une référence à la scène de Léonard de Vinci ou du Christ. Bon bref. Mais on a pas mal parlé de Léonard de Vinci à ce moment-là. Bon. Et alors que moi, ce que j'ai dit, c'est que je vais sans doute aller dans votre sens, c'est que là où j'entends qu'on ait pu trouver ça inquiétant, c'est que si c'est un banquet dionysiaque, eh bien, c'est que c'est un banquet païen fondé sur le sacrifice et en général, on mangeait la chair d'un enfant. D'accord ? On mangeait la chair d'un petit enfant. Et donc, c'est quand même le retour du paganisme. Alors, certes, je vous ai dit, dans les modes légères, alors on pourrait dire, finalement, il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est Philippe Catherine en roi Bacchus, donc finalement, c'est très drôle. Ça se moque aussi, finalement, des... Pas de panique. Mais là où je peux comprendre que ça ait fait peur, c'est que si c'est un retour au rite païen en deçà de la scène, et qu'il y a bel et bien un petit enfant, certes, dont on ne met pas en scène le sacrifice, eh bien, il y a quelque chose d'inquiétant. Et le pape François avait parlé, à propos des abus dans l'Église, de messe noire. Voyez, de messe noire. C'est-à-dire, c'était très fort, mais voyez, au fond, et le Christ, alors, moi j'aime bien dire, le Christ, il augmente la souffrance dans le monde parce qu'il indique plus. Avant, on ne s'inquiétait pas de la femme hémorragique, même si à cause de son flux de sang, elle était tenue à l'écart du temple. On ne s'inquiétait pas des enfants. Un enfant, il était là pour vérifier le fait qu'on en avait eu beaucoup, c'est-à-dire la puissance du père et de la mère. Et le Christ, il a indiqué les petits-enfants, il a indiqué la femme hémorragique ou hémorroïse, il a indiqué le lépreux. Il nous les a rendus frères et sœurs. Et avec les petits-enfants, c'est une parole mais même à laquelle on n'est même pas encore arrivé. Quand il dit, s'il y en a un qui scandalise l'innocence d'un de ses petits et tout, voilà, il vaudrait mieux qu'on lui attachât une meule autour du cou et que, waouh. Et là, il se dit, bon. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel parce que, alors, autant du Christ moins, mais le peuple juif sacrifiait aussi à Baal de temps en temps. Il y avait des rechutes. C'est un peuple qui est sorti du sacrifice de l'enfant, mais qui revenait. Il faut bien voir, pour mesurer l'originalité de notre religion, que tous les mythes... Qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Un mythe, c'est un récit qui vient neutraliser l'événement. C'est un récit qui est en amont. C'est le vieillard qui enseigne aux enfants, comme dans le dessin animé Vaiana. On enseigne aux enfants des choses pour leur dire « ne sortez pas de l'île, ne sortez pas de la tribu ». Et même dans les sociétés primitives, on vous tatoue de telle sorte que vous n'appartenez qu'à la tribu. Et le fait que le mythe est là pour que l'avenir jamais n'ait lieu, pour que le passé absorbe toujours et déjà ce qui pourrait arriver de nouveau, la preuve, c'est le rite qui manifeste ce mythe, c'est-à-dire l'adulte qui tue l'enfant. Et il n'y a que par deux fois que ça n'a pas lieu, c'est quand Œdipe tue son père, mais c'est un accident qu'il va payer très cher. Alors là, c'est vrai qu'il y a un fils qui tue le père, et non pas un père qui tue le fils. Mais sinon, dans tous les mythes, C'est le père. Alors, c'est vrai que il y a celui de la création du monde là chez les Grecs où Uranos, la féconde Gaïa, les enfants sont bloqués dans Gaïa parce qu'il veut pas s'enlever d'elle. C'est Cronos qui châtre Uranos, qui va au ciel, mais Cronos aussi dévore ses enfants et finalement Zeus tue Cronos. Mais Zeus se comporte comme quelqu'un qui dévore aussi. Le père tue le fils. Et sauf dans la religion chrétienne, où en effet, il y a Abraham qui ne tue pas Isaac. Et c'est énorme, le sacrifice d'Abraham, du peintre du Caravage, est une œuvre magnifique, parce que non seulement Abraham s'apprête à sacrifier Isaac, mais même le possède presque sexuellement, c'est vraiment un abus. L'ange l'arrête et lui indique, alors déjà le bouc, donc il faut tuer le père et non pas l'agneau, hein. Il va falloir tuer ce père qui tue le fils. Et en plus, il lui indique même pas, en fait, quand on regarde l'ange, il lui indique là-bas deux hommes en chemin. Et il faut vraiment bien regarder, vous regarderez le sacrifice d'Abraham, génie du Caravage, c'est lui qui l'a intitulé comme ça. C'est Abraham qui est sacrifié. Alors, c'est Abraham qui va sacrifier, mais c'est Abraham qui est sacrifié. Et Joseph, Saint Joseph, qui accepte toujours et déjà que ce fils-là, il le reçoive de plus loin. Bref, il y a un mythe qui nous dit que on va changer de mythe. C'est un mythe qui est accueillant de l'avenir et on va changer de rite, en effet, puisqu'on va avoir un rite où on ne tue plus l'enfant. Et franchement, vous voyez bien l'actualité. L'humanité a toujours tendance à vouloir étouffer en l'enfant l'avenir, à vouloir le marquer, à vouloir le traumatiser, à vouloir... Quand je suis face à mon fils, à ma fille, à quel point j'accepte que ça soit, qu'ils appartiennent à Dieu, quoi. Ils appartiennent à Dieu, à leur vocation propre, à leur chemin propre.
C'est un peu décourageant, c'est que quand on regarde des enfants dans un bac à sable, le désir mimétique, il est à la racine de tout petit, jusqu'à ce que le langage puisse se développer, certainement. Et on voit de façon classique, le parent dit « Mais non, sois gentil, ce petit, oui. etc. » Qu'est-ce qu'il faut faire de ça par rapport à tout ce que tu viens de raconter ?
Ben, il y a quelque chose d'assez remarquable. C'était une étude. Alors moi, je ne l'ai pas retrouvée. Il faudrait que je la redemande à cet ami, qui, je ne vais pas vous donner son nom parce que ça, vous en avez rien à faire, mais c'est une étude d'un Américain qui a pris dans un quartier les familles où les enfants tournaient à la délinquance, à peu près tous, les fratries, quoi. Alors il y a toujours une exception, quartier américain très pauvre, et les familles où ça n'arrivait pas. Et il se disait, c'est quoi ? C'est le budget, vous savez, on corrèle, on fait plein en sciences humaines, et après on fait des corrélations et on voit quel pourrait être le rapport de cause à effet. Bon. Il peut y avoir que des corrélations, mais c'est... Et cet homme-là, il dit, mais en fait, c'est pas corrélé déjà à la richesse, et même au contraire. En fait, les familles vraiment les plus pauvres, c'est là où ça tourne pas mal. Alors, il s'est dit, c'est peut-être ethnique, ou alors le degré, le temps d'immigration et tout. Et en fait, il a une hypothèse, alors je sais pas à quel point il a pu la vérifier, mais c'est que les familles qui ont même pas le budget de payer la cantine, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire ? D'accueillir les enfants à midi. Et en fait, ces enfants-là, ils voient les gamins, ils ont un temps avec les parents, ou avec la grand-mère, parce que parfois c'est la grand-mère qui doit prendre le relais, ou l'oncle, mais ils voient un adulte, ils retournent avec les enfants. Et en fait, il dit que sans doute ça aide à ne pas entrer dans les mécanismes de la délinquance, c'est qu'à temps régulier, il y ait un tout autre qui s'appelle l'adulte. Mais quand, dans une classe, il y a 30 enfants pour un adulte, à la cantine, il y a 60 enfants pour un adulte, après, il retourne à la récréation, il n'y a plus d'adultes, et bien, en fait, c'est là qu'on est livré à la violence par les enfants, sur les enfants, voilà, et tout à fait. Et qu'en fait, et ce qui les sauve, c'est le dépaysement, ou d'ailleurs aussi, l'école où est Benoît, par exemple, le petit dernier, eux, à chaque table est composée d'un CM2, d'un CM1, et chacun doit veiller, pour leur dire, vous êtes responsable de votre frère, et ça commence très bêtement par le fait que s'il n'arrive pas à ouvrir, ben c'est vous qui essayez, sinon c'est l'adulte. Bon. Mais, c'est... Les enfants, en effet, il faut les respecter, c'est aussi les accompagner là-dedans, et leur nommer les violences, dire bah oui, mais tu es jaloux, voilà, tu es jaloux et c'est ainsi. Bon, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ?
Et des fois, ils voient d'eux-mêmes. Ça me fait penser à des expériences que il n'y a pas très longtemps, notamment en camp de vacances avec des jeunes adolescents. Je me suis surpris à voir qu'à des moments, ils s'apprêtent à faire une bêtise, en l'occurrence pas forcément grave, quelque chose de, mais qui peut être inapproprié. Et au moment où ils s'aperçoivent de la présence d'un adulte, ils arrêtent. S'ils voient qu'on l'a vu, ils rigolent ou il y a autre chose, ça se transforme.
Mais oui, la vie intérieure d'un enfant, tous les combats, toutes les, c'est incroyable. Et cet enfant, nous le sommes encore. Je veux dire, c'est pas une étape qu'on a laissée comme on a laissé un pays derrière une frontière. On est des enfants continués. Vraiment, et c'est pour ça qu'on peut le redevenir, selon la parole du Christ. Et c'est vrai que l'enfant dont le Christ parle, c'est un concept que je développe et je vous le donne comme ça, parce que c'est un concept qui m'a beaucoup marqué cette année. Je finis pratiquement mon livre là-dessus. C'est, vous savez, Heidegger, ça a été très important chez Sartre aussi, et ça vient plutôt de Blaise Pascal, mais Heidegger dit que la tonalité fondamentale de notre être, c'est l'angoisse, parce qu'en fait, on est libre, donc on est angoissé, c'est l'angoisse, et il dit, cette angoisse tient au fait que la condition humaine est d'avoir été jetée au monde. Nous avons été jetés au monde, nous sommes nés dans tel canton de l'univers, dit Blaise Pascal, et puis Sartre va reprendre ça, on va parler de l'être jeté au monde. Chez Heidegger, en allemand, c'est la Geworfenheit. La Geworfenheit, le fait d'avoir été jeté au monde. Et Edith Stein lui répond en disant, c'est une erreur phénoménologique, c'est-à-dire, non, quand on décrit les phénomènes, c'est faux. L'angoisse n'est pas la tonalité fondamentale de notre âme. C'est pas l'angoisse, c'est une sorte de confiance première qu'il faut retrouver, mais qu'on a, parce que notre condition humaine, c'est pas d'avoir été jeté au monde. Vous jetez un bébé au monde, il vit quoi ? 3 jours ? Non, c'est d'avoir été accueilli. C'est la Geborgenheit en allemand, qui est un mot qu'on a du mal à traduire. L'Institut Goethe, en 2000, l'a élu plus beau mot de la langue allemande. Et Geborgenheit, j'ai demandé à une élève cette année, une germaniste, elle a dit « Ah, alors on dit c'est la sécurité, mais c'est pas la sécurité, c'est pas ça. La sécurité, on peut avoir 16 cadenas et bon. Non, c'est le sentiment qu'a un enfant dans les bras de sa mère. Elle m'a donné une image, cette élève magnifique. Elle me dit, vous savez, quand on a eu mal, qu'on a été consolé et qu'on reste un peu plus longtemps sur les genoux de la personne qui nous console et qu'à un moment donné, voilà, qu'on a encore des sanglots, mais c'est tellement bon et que la personne nous dit, ouais, bon, allez, ça va mieux maintenant, t'en fais un peu trop. Et elle dit, c'est ça la Geborgenheit. Et en fait, Edith Stein, celle qui deviendra sainte, elle oppose ça à Heidegger en disant voilà, nous n'avons pas été jetés au monde. Et je pense que quand le Christ dit redevenez comme des petits enfants, c'est retrouver cette confiance première. Là, c'est dans les textes en ce moment. L'œuvre du Père, c'est que. Quelles sont les œuvres que nous devons faire ? Il répond l'œuvre du Père, c'est que vous croyez et que vous ayez confiance dans le Fils, que vous ayez confiance. Et c'est ça qui est un peu fou parce que je pense qu'en plus, dans les temps dans lesquels nous sommes, voilà, la seule chose que nous pouvons vraiment faire, et qui est un faire magnifique, très paradoxal, c'est la confiance. Vraiment, quand tout nous dépasse, on peut encore avoir ce geste incroyable qui est de dire « faisons confiance ». Et je vais finir là-dessus, sauf s'il y a encore une question, mais parfois je me dis que si la violence est un rapport sans relation, c'est quoi la non-violence absolue ? Eh bien, c'est une relation sans rapport. C'est-à-dire, c'est une relation qui va s'ouvrir sans savoir si ça va marcher. Et quand vous faites confiance à un enfant, par exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous lui faites confiance ? Eh bien, vous lui dites, bon, eh bien, maintenant, je te laisse faire. Je te donne à ta responsabilité. Je te laisse faire. Mais puisque c'est moi qui te fais confiance, c'est ma confiance que je te fais, eh bien, si tu rates, c'est moi qui suis responsable de la responsabilité que je t'ai laissée. Voyez comme c'est beau. Je me rends responsable de la responsabilité que pourtant je te donne. C'est-à-dire, en fait, c'est ensemble que nous sommes responsables. Et ça, c'est la non-violence. Une relation sans rapport, une relation avant même tout rapport. C'est demander, voilà, quel est ton tourment, c'est soigner l'homme blessé au bord du chemin, c'est soigner l'homme au bord du chemin, est-ce qu'il nous remerciera, est-ce qu'il ne nous remerciera pas ? On est en relation sans qu'il y ait encore de rapport, il est inconscient. C'est veiller la personne qui vient de mourir ou la personne qui est mourante. Ça, c'est des relations sans rapport. Et vous avez, je vous ai donné la définition de la violence, et je pense que la prière, quelque part, où on dit « me voici », est-ce qu'il va y avoir un rapport ? Bah oui, moi, la prière, tout est exaucé, il y a Dieu qui me tutoie, pas du tout. On fait comme Simone Veil, elle dit, on attend. Un de nos amis qui est Carme, donc je ne vais pas finir par les franciscains, mais ne soyez pas vexés. Une fois, ma petite fille Claire, enfin, elle avait 8 ans à l'époque, elle dit, frère Jean-Gabriel, c'est quoi, ça veut dire quoi prier ? Puisqu'en fait, ils font ça quand même 2 heures le matin, et puis ça veut dire quoi prier ? Lui, il la regarde comme ça, il la prend au sérieux. Très important, 8 ans, on va dire. Il dit, prier, tu vois, c'est perdre son temps pour Dieu.
Non.
Voilà, je vous laisse sur cette phrase énigmatique.
Nous ne nous quittons pas aussitôt. Il a été prévu un moment de convivialité, donc n'hésitez pas à aller dans le couloir pour retrouver Cécile. Et puis autrement, on a sélectionné certains titres de Martin Stephens afin que vous puissiez les découvrir et puis peut-être lui demander une dédicace ou en souvenir de cette soirée. Encore merci à vous. Merci. Et merci Marguerite.